Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Libre Radio, la radio qui ne se fait aucune illusion. www.libradio.org. Alors nous sommes en plein cœur des grottes, à l'aune de cette découverte, en tout cas de cette observation qu'une équipe internationale d'astronomes, dont fait partie l'Université de Genève, a opéré, en se servant du télescope spatial Hubble de la NASA. Alors, David Ehrenreich, je vous remercie déjà de prendre du temps pour répondre à nos questions.
Je vous en prie.
Et voilà, alors on s'interrogeait, qu'en est-il de ces planètes qui entourent cette étoile que l'on nomme TRAPPIST-1 ? Mais peut-être faudrait-il déjà rappeler qui est TRAPPIST-1 ?
Alors, TRAPPIST-1, c'est le nom d'une toute petite étoile qu'on observe depuis, on va dire 2 ans maintenant, avec un télescope qui s'appelle TRAPPIST et qui est situé dans l'hémisphère sud. Alors il s'appelle TRAPPIST parce qu'il a été conçu par une équipe d'astronomes belges en collaboration avec d'autres pays. Mm-hmm. Donc c'est un acronyme qui signifie je sais plus quoi exactement, mais bon, ils ont trouvé ça rigolo de l'appeler TRAPPIST en référence aux bières.
Absolument.
Voilà.
Alors j'ai l'acronyme.
Oui, allez-y.
Alors, je peux donner, si jamais l'acronyme, c'est Transiting Planets and Planetesimal Small Telescope.
Voilà, c'est ça. Transiting, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Transiting Planet, ça veut dire que le télescope, il cherche des planètes qu'on dit en transit devant leur étoile. Alors, en transit, ça veut simplement dire que vu depuis la Terre, on voit la planète qui va passer devant son étoile. Et ce faisant, ça va créer une petite occultation, un peu comme une petite éclipse, un peu comme celle qu'on a vue depuis les États-Unis avec la Lune qui est passée devant le Soleil. Sauf que là, ce n'est pas toute l'étoile qui est éclipsée, c'est juste une toute petite partie de l'étoile. Donc c'est beaucoup plus difficile à observer. Mais maintenant, ça fait plusieurs années, on en observe énormément. Et c'est une des méthodes les plus fructueuses pour détecter de nouvelles planètes. Donc on appelle des exoplanètes, hein, des planètes qui tournent autour d'autres étoiles.
Voilà. Mais il faut quand même dire que c'est quelque part, TRAPPIST est quand même une voisine parce qu'elle se trouve dans la Voie lactée.
Alors, elle se trouve toute dans la Voie lactée parce mm-hmm. qu'on est incapable de voir ce type de phénomène dans d'autres galaxies. C'est vraiment beaucoup trop faible. Mm-hmm. La particularité de TRAPPIST-1, alors outre que c'est donc la première planète qui a été identifié par ce relevé fait avec le télescope TRAPPIST, c'est que donc, ce télescope il se focalise sur des étoiles qui sont très petites et très peu lumineuses. Et, alors, elles sont intéressantes à plus d'un titre, elles sont difficiles à voir, mais ce sont les étoiles qui sont de très très loin les plus nombreuses de la galaxie, et dans la plus proche banlieue du Soleil, c'est peut-être le type d'étoile qui est le plus commun. Mmh. Donc il y a un premier avantage, c'est que on a beaucoup de ces étoiles dans notre environnement, très proche. Et puis comme elles sont petites et puis qu'elles sont très peu lumineuses, quand on détecte une planète autour, alors nous on est un peu limité dans les types de planètes qu'on peut détecter. On va dire pour faire simple que plus la planète est proche de son étoile, plus elle est facile à détecter pour nous.
D'accord. Et ça, comment est-ce qu'on l'explique ? Pourquoi est-ce que c'est plus facile de cette manière-là ?
Alors, tout simplement parce que quand elle est très près de l'étoile, elle va tourner très vite autour. Hein, vous savez que la Terre met 1 an pour tourner autour du Soleil. La planète la plus proche du Soleil, c'est Mercure, qui met 88 jours à tourner du Soleil. Ça veut dire que l'année sur Mercure dure 88 jours. C'est-à-dire que tous les 88 jours, elle a fait un tour. Mmh. Eh bien, les exoplanètes, on en a détecté énormément qui tournent en seulement quelques jours autour de leurs étoiles. Donc l'année dure seulement quelques jours. Et les planètes autour de TRAPPIST-1 ne font pas exception. Et le gros avantage qu'on a, c'est que comme on voit ces petites éclipses, uniquement quand la planète passe devant l'étoile, plus on en voit, plus le signal est fort, plus on a de chances de tomber dessus. D'accord. Une planète comme la Terre qu'on verrait une fois en transit devant une autre étoile, parce qu'elle met 1 an à tourner autour, bah on pourrait la voir une fois par an, puis ça durerait Allez, ouais. Ça durerait une dizaine d'heures. Donc, si on n'observe pas l'étoile au moment du transit de la planète, ben, alors déjà, on ne saura jamais qu'il y a une planète. Et puis, si, même si on le voit une fois, il faudra attendre un an avant de pouvoir le réobserver. Alors que quand ça tourne en quelques jours, eh ben, on peut observer plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'événements en seulement quelques années.
Donc, pardon, excuse-moi.
Et donc, on peut mesurer les propriétés orbitales de la planète de manière très précise. On peut mesurer la taille de la planète de manière très précise aussi, parce que quand la planète est devant l'étoile, donc elle va bloquer une partie de l'étoile comme un petit masque. Et en mesurant la baisse de luminosité, en fait, ça nous donne directement la taille de la planète.
D'accord. Alors, c'est donc la fréquence et la répétition qui permettent justement d'avoir, qui avantage l'observation.
Voilà, ça avantage
et la détection.
Du point de vue de la détection et puis du point de vue après de la mesure de la taille de la planète, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement favorable.
Ces mesures, on les fait à l'aide d'un ordinateur ou de quelle matière est-ce qu'on sent cette différence de luminosité? Est-ce qu'elle est perceptible visuellement ou est-ce qu'elle est perceptible par calcul?
Alors, c'est pas perceptible à l'œil parce que là, on parle dans le cas de grosses planètes autour d'une étoile comme le Soleil, on a une baisse de la lumière d'environ 1%. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir à l'œil.
D'accord.
Donc, on a recours à des télescopes. Alors, on a des télescopes au sol. On peut utiliser le télescope spatial Hubble. On peut utiliser un autre télescope spatial qui s'appelle Spitzer, qui a permis de confirmer d'ailleurs les planètes, donc le fait qu'il y ait 7 planètes autour de TRAPPIST-1. Et en fait, ces télescopes sont équipés de détecteurs qui sont suffisamment sensibles pour voir des baisses de l'ordre de 1% et plus petits. Donc des choses qui seraient totalement invisibles à l'œil. Et en fait, la technique, c'est assez simple en vérité, parce qu'on observe l'étoile, on essaye de l'observer un maximum, et puis quand la planète passe devant, on voit une petite différence. Et donc on mesure, on regarde l'écart qu'il y a entre le moment où la planète est passée devant et le moment où la planète n'est pas devant. Et ça nous donne la baisse de luminosité relative.
Et alors ça, c'est capté depuis le sol, depuis le télescope TRAPPIST au Chili.
Voilà, exactement, c'est ça qu'on mesure.
Mais alors dites-moi, ce que l'on mesure finalement, ça n'est qu'une lumière qui parvient jusqu'à nous ou qui ne parvient pas.
Oui.
Mais donc il y a ces... du fait de son éloignement qui n'est donc plus d'actualité, si je pourrais dire.
Alors, ce qu'on observe, alors dans le cas de TRAPPIST-1, effectivement, les photons, les particules de lumière qu'on reçoit au télescope, elles sont parties de l'étoile il y a 40 ans.
C'est ça, parce que donc, effectivement, on est à 40 années-lumière.
C'est exactement.
D'accord.
Donc, et c'est relativement proche, on va dire.
Ok. Est-ce qu'on peut trouver d'autres analogies entre le système planétaire de TRAPPIST et puis notre système solaire à nous, ou est-ce qu'ils sont extrêmement différents?
Alors, il y a des points communs qui sont très excitants et qui sont la raison pour laquelle tout le monde s'excite autour de ce système. Et il y a des grosses différences.
Mm-hmm.
Alors, peut-être on peut commencer par les différences.
Allons-y.
Et puis on finit par les choses qui
croustillantes.
Croustillantes, on va dire. Alors, la principale différence, c'est la nature de l'étoile. Ici, on a affaire à une étoile qui est beaucoup plus petite que le Soleil. C'est ce qu'on appelle une naine rouge. Donc, en fait, elle est rouge parce qu'elle est beaucoup plus froide. Alors, c'est un peu contre-intuitif parce que dans la salle de bain, en général, quand c'est rouge, c'est chaud et quand c'est bleu, c'est froid. Mais en science physique, en vérité, quelque chose, un objet qui se met à briller d'une lumière bleue, voire blanche, est beaucoup plus chaud qu'un objet qui va briller d'une lumière rouge. Hein, quand on monte un métal à une température incandescente, il se met à briller, il passe d'abord par le rouge, et puis il finit par le bleu et par le blanc. Donc le Soleil, c'est une étoile qui est à peu près à 6000 degrés à sa surface. Ici, on est à une étoile qui est autour de 3000 degrés, et donc elle brille d'une lumière rouge, et elle est beaucoup plus petite. En fait, elle fait la taille de Jupiter, qui est la plus grosse planète dans notre système solaire, c'est-à-dire à peu près 10 fois plus grosse que la Terre.
D'accord, et sa masse, elle ?
Alors, donc le Soleil est 100 fois plus grosse que la Terre.
D'accord.
On a un objet qui est 10 fois plus petit que le Soleil,
okay.
Et qui sert d'étoile à un cortège. Et alors là, pour le coup, Alors, on n'est pas sûr qu'on connaît toutes les planètes qui sont dans ce système-là, mais on a 7 planètes dans le système, de ce que nous disent les observations jusqu'à présent. Pour la raison que je vous disais tout à l'heure, que c'est plus facile de voir les planètes qui sont plus près. Donc, toutes ces planètes-là, elles tournent autour de l'étoile en des temps assez courts. Et peut-être qu'il y en a qui sont plus loin, qui mettent plus de temps à tourner, mais à ce moment-là, on ne les a pas encore vues.
Ok. Dites-moi, juste une question concernant Trappiste, l'étoile. Oui. Est-ce que le fait qu'elle soit rouge et moins calorifique que le Soleil et beaucoup plus petite, est-ce à dire que sa durée de vie, que dans son existence, elle est plus au début, au milieu ou à la fin que le Soleil, que notre Soleil ?
Alors ça, c'est une question difficile. On ne sait pas exactement quel âge elle a. D'accord. En fait, on connaît très mal des étoiles qui soient aussi froides que Trappiste 1. Alors, c'est un des gros challenges qu'on a et qu'on a essayé de résoudre, notamment avec les observations là, dont on va parler. Mm-hmm. En fait, on ne sait pas exactement quel âge elle a. Ce qu'on sait, c'est que ce type d'étoile, a priori, peut vivre beaucoup plus longtemps que le Soleil.
D'accord.
On estime que la durée de vie de ces étoiles-là est même supérieure au temps qui s'est écoulé depuis la formation de l'univers. Donc le Soleil va évoluer beaucoup plus rapidement que ces petites étoiles naines et froides. Mmh. Alors, ce qui peut être intéressant d'un point de vue, si on se projette maintenant sur l'existence de civilisations extraterrestres, ça peut être très intéressant d'avoir des étoiles comme ça qui restent, qui vivent pendant plusieurs dizaines de milliards d'années. Mais en contrepartie, il y a d'autres points sur lesquels qui sont assez mystérieux et qui pourraient aller à l'encontre, puisqu'on va parler, d'habitabilité.
Hein. Tout à fait. Cette fameuse zone habitable.
Voilà, on ne sait pas si ces étoiles sont calmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, alors sur le Soleil, puisqu'on on se compare toujours avec le Soleil, mm-hmm. Peut-être vous avez déjà entendu, on parle des fois de tempêtes magnétiques oui. À la surface du Soleil.
D'éruptions solaires.
Ces espèces de torts de gaz qui sont projetés, qui sont éjectés de la surface du Soleil puis qui retombent dessus. Et on se dit, a priori, qu'une planète qui serait sur la trajectoire d'une de ces éjections, ce ne serait pas génial
ouais, effectivement.
Pour son atmosphère, pour une vie éventuelle. On voit bien, donc nous, on est relativement loin du Soleil. On est juste à la bonne distance. Quand il y a une tempête électromagnétique à la surface du Soleil qui est très très forte, ça peut nous foutre en l'air les satellites de télécommunication. Ouais. Si on était à la même distance que les planètes de Trappiste 1 autour de leur étoile, alors là, ça pourrait être potentiellement très 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 dangereux. Mais si l'étoile est active, donc si elle a beaucoup de ces éjections. Alors, il y a une tendance pour ces petites étoiles à être assez actives, notamment au début de leur vie. Donc, elles connaissent beaucoup de ces explosions, on va dire. Mm-hmm. Mais en vérité, pour des étoiles comme Trappiste 1, qui sont encore plus petites que les plus petites étoiles qu'on avait étudiées jusqu'à présent, là, c'est vraiment l'étoile mystérieuse de ce point de vue-là.
D'accord.
Mais du coup, l'enjeu, il est important parce que si, évidemment, on voit que l'étoile est tout le temps en train d'avoir des éjections, en train d'éjecter du plasma brûlant dans l'espace autour d'elle, a priori, on pourrait se dire comme ça, c'est moins favorable pour l'existence d'atmosphères stables autour des planètes qui pourraient être elles-mêmes un prérequis à l'existence d'une vie stable à leur surface.
Ça veut dire que là, vous êtes en train, en filigrane, de nous dire que les planètes détectées seraient dotées d'une atmosphère. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
Alors ça, on ne sait pas.
Ah, on ne sait pas.
Ça fait partie des choses qu'on ne sait pas. Mais encore une fois, en supposant qu'elles en aient une, on peut se demander, est-ce que ces atmosphères-là, est-ce que ces environnements-là seraient vraiment favorables alors, à l'existence, à ce qu'il y ait une atmosphère, à ce qu'il y ait une eau liquide à leur surface. Et puis, est-ce que la vie pourrait être générée et se développer à la surface de planètes comme ça ? Ou alors, est-ce que, compte tenu de ce qu'on sait de l'étoile, c'est totalement irréaliste de penser ça. Donc c'est un peu à ce type de questions qu'on essaye de répondre. Et en fait, on y arrive en essayant de mieux connaître l'étoile. Et donc les observations qu'on a faites avec Hubble, ça vise essentiellement à mieux connaître l'étoile.
Ok. Et alors, voilà, quels sont les résultats que vous avez pu observer? Et
alors,
sont-ils plutôt, comment dire, optimistes, pessimistes? Est-ce qu'ils ont éveillé comme ça vos imaginations?
Je me permets juste de revenir un tout petit peu en arrière, parce qu'on a parlé des différences entre TRAPPIST-1 et le système solaire. Finalement, on n'a pas tellement parlé des similitudes.
Oui, pardon, c'est vrai.
Et alors, ce qui est vraiment très, très intéressant, c'est que donc, sur les sept planètes qu'on a détectées lors d'études précédentes, et qui ont été annoncées l'an dernier, elles sont toutes quasiment elles font toutes à peu près la taille de la Terre, ce qui est déjà intéressant en soi. Et puis donc elles sont très proches de leur étoile, mais comme l'étoile est très faible, on peut estimer que la température à la surface de ces planètes-là, elle ne doit pas être si chaude que ça. Hein. Pour faire simple, quand on est très proche de l'étoile, il fait plus chaud. Quand on est très loin, il fait très froid. Puis quand on est juste à la bonne distance, il fait tiède. Et on pourrait s'attendre à ce que de l'eau liquide puisse exister en surface.
Voilà, parce que ça veut dire qu'on estime que plus que la température en elle-même, que la vie pourrait s'y installer si l'eau liquide existerait.
Alors voilà, disons, on pense que la présence d'eau liquide, c'est un prérequis pour le développement de la vie telle qu'on la connaît. Peut-être qu'il existe d'autres formes de vie qu'on ne connaît pas du tout et qui n'ont pas besoin, mais là pour le coup, on se retrouve un peu dans la situation de la personne qui cherche ses clés autour du lampadaire. Et qui ne va pas plus loin que la zone éclairée parce qu'elle ne pourrait pas les voir. Donc on est un peu dans cette situation-là, on cherche ce qu'on connaît, et on a quand même d'assez bonnes raisons de penser que c'est bien d'avoir de l'eau liquide.
D'accord.
Donc on va chercher, alors c'est un peu ce qui définit ce qu'on appelle la zone habitable. En anglais, il y a un mot rigolo, on parle de zone boucle d'or, de Goldilocks zone, parce que c'est justement là où c'est pas trop froid, pas trop chaud, c'est juste tiède.
D'accord.
En référence au petit ours.
Ouais.
Donc on est très intéressé par détecter des exoplanètes, alors qui feraient aussi la taille de la Terre, parce que on aimerait bien aussi avoir des planètes solides, pas des géantes gazeuses où il n'y a pas de sol. Donc on est intéressé par avoir des planètes de la taille de la Terre dans la zone habitable, là où il pourrait y avoir de l'eau liquide. Alors là aussi, il y a beaucoup de pincettes à prendre, parce que on peut estimer comme ça de manière très simplifiée la température qu'il ferait à la surface d'une planète si elle n'a pas d'atmosphère, et puis dire en gros c'est entre 0 et 100 degrés, donc ça autorise la présence d'eau. Sauf que si vous n'avez pas d'atmosphère, vous ne pouvez pas avoir d'eau liquide, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de pression atmosphérique, donc toute eau, elle est vaporisée. Il n'y a pas d'eau sur la Lune, hein. Pourtant la Lune est dans la zone habitable, puisqu'elle est juste à côté de la Terre. Ça va aussi dépendre beaucoup de ce que vous mettez dans l'atmosphère de la planète. Si vous mettez beaucoup de gaz à effet de serre, comme sur Vénus, vous vaporisez tout, même si vous n'êtes pas très loin de la zone habitable, ça devient un enfer. Et puis s'il n'y a pas assez de... s'il n'y a pas assez d'atmosphère, vous êtes dans le cas de Mars, et puis là, ça a plutôt tendance à être beaucoup plus... vous avez un désert gelé, et vous n'avez pas non plus d'eau liquide qui peut exister de manière stable en surface.
D'accord. Mais
c'est un problème qui est assez complexe, il y a tout un pan d'études théoriques où les gens, justement, travaillent à estimer qu'est-ce qu'on appelle vraiment la zone habitable, comment ça dépend du contenu de l'atmosphère d'une planète.
Oui. J'ai juste une question. En admettant qu'il y ait de l'eau liquide, mais qu'il soit emprisonné, soit sous une calotte glaciaire, soit sous des pans rocheux, est-ce qu'il serait possible que, dès lors que, même si, en admettant que la planète soit exempte d'atmosphère, une eau liquide puisse se situer sous une calotte ou sous une couche rocheuse, par exemple ?
Oui, complètement. On pense même que c'est le cas d'ailleurs sur les lunes gelées autour de Jupiter et de Saturne, pour lesquelles on commence à avoir vraiment des signes très intéressants, comme quoi il y aurait des océans d'eau sous les banquises de ces lunes. Le problème, ces lunes-là, elles sont très intéressantes parce qu'en plus, on peut envoyer des robots, on peut envoyer des sondes. Pour une exoplanète, pour des exoplanètes comme TRAPPIST-1, c'est complètement impossible. Et là, le problème, si on a de l'eau, même si c'est des océans qui contiennent des traces de vie, sous une banquise, on ne le verra jamais.
Ah oui, bien sûr, ça c'est tout à fait pas... on peut pas le détecter, je veux dire.
Non, voilà. Non. Si c'est pas dans l'atmosphère, on peut pas le voir. Okay. Il faut vraiment que ce soit en surface pour qu'on puisse avoir une chance de sonder.
Et encore une autre question, est-ce qu'il faut également que ces planètes, à l'inverse de la Lune qui est qu'un satellite, mais soit, enfin, aient un axe de rotation qui permette à ces deux hémisphères d'être, comment dire, un derrière l'autre exposé? Vous voyez ce que je veux dire?
Alors, là, on est dans une autre particularité du système, c'est-à-dire que comme les deux Trappistes 1, qui est assez différent de ce qui se passe dans le système solaire, comme les planètes sont très très proches de leur étoile, alors pour le coup, elles ont un peu le même comportement que la Lune autour de la Terre. Enfin, en tout cas, c'est ce à quoi on s'attend. C'est-à-dire que elles sont très proches, donc il y a des, elles sont synchronisées. Elles ont une rotation qui est synchronisée avec leur révolution. Alors, en des termes plus simples, ça veut dire que on s'attend à ce qu'elles présentent toujours la même face à leur étoile, comme la Lune autour de la Terre.
Ça, c'est problématique également.
Alors, potentiellement, oui, c'est problématique parce que ça voudrait dire qu'elles auraient une face qui, donc un côté jour permanent, qui pourrait être trop chaud, et puis un côté nuit permanent aussi, qui pourrait être trop froid.
D'accord.
Alors, ça pourrait vouloir dire que globalement, ce n'est pas des endroits très sympas pour aller habiter, sauf à imaginer que sur la partie matin et la partie soir de la planète, hein, qui sont en gros les côtés, si on s'imagine, si on s'imagine ça comme ça. Là, il y a un anneau comme ça tempéré autour de la planète, autour duquel, puis sur cet anneau, il pourrait y avoir des océans d'eau liquide. Du côté jour, il serait complètement évaporé, il serait en ébullition, puis du côté nuit, il serait gelé. Mais sur cet anneau-là, qui correspond au soir et au matin, on pourrait avoir des océans d'eau liquide.
Ok. Et alors donc, on constate sur Trappist qu'il y a cette zone d'habitabilité qui est présente quand même. Pour trois planètes, si j'ai bien compris, c'est ça?
Voilà, alors même un peu plus. Alors, encore une fois, ça dépend un petit peu comment on la définit, mais disons, la découverte du système qui a présenté les sept planètes, donc il y avait comme ça cette bande estimée de zones habitables dans laquelle on avait la planète D, la planète E, la planète F et la planète G qui pourraient se trouver. Alors, donc ça fait quatre planètes potentiellement habitables de la taille de la Terre autour d'une étoile qui est assez proche de nous et qu'on pourra étudier avec le puissant James Webb Space Telescope qui sera lancé l'an prochain.
C'est ça. Enfin, avec beaucoup de retard, me semble-t-il, non?
Oui, alors ça fait maintenant quand même un moment que le projet a été repris en main. Et donc là, cette date de 2018, ça fait plusieurs années maintenant qu'elle est là. Et donc là, maintenant, c'est bon.
C'est génial, ça c'est une excellente nouvelle, dis donc.
Si vous allez sur le web et que vous le regardez, vous avez des films assez incroyables où on voit le miroir se déplier.
Je m'étais tenu un petit peu informé et puis effectivement après il me semble que le projet avait un petit peu capoté, qu'on ne trouvait plus les financements, qu'il avait été un peu mis aux oubliettes et j'avais plus suivi. Donc du coup alors il sera lancé en 2018.
Voilà, il y a eu des dérives mais maintenant c'est bon. Et donc il sera lancé par une fusée de... européenne, hein, puisque c'est une mission aussi de l'Agence spatiale européenne. De mémoire, je dirais dans l'été 2018, mais je pourrais vérifier.
Ouais.
Et donc, on pourra étudier, alors ça, ce système Trappist 1, il est parfait pour étudier avec ce télescope qui se spécialise dans l'étude du ciel dans l'infrarouge. Et comme c'est une étoile qui brille dans le rouge, qui est rouge, c'est un très très bon candidat justement pour être étudié avec ce télescope qui sera extrêmement sensible.
D'accord. Alors voilà, ces observations, eh bien, vous en avez recueilli toute une série.
Voilà. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un petit peu le contre-pied justement du fait que l'étoile est rouge et on s'est plutôt intéressé à la partie est-ce que l'étoile elle est active et est-ce qu'elle pourrait menacer comme ça, est-ce qu'elle pourrait empêcher qu'il y ait des atmosphères stables autour des planètes. Alors, pour faire ça, nous, on regarde avec Hubble, c'est le seul télescope qui est capable de regarder dans l'ultraviolet, donc tout à l'autre bout du spectre de couleurs. Et là, on est vers les ultraviolets, c'est des rayons assez énergétiques. Et vous savez peut-être que c'est en général, c'est pas une très bonne idée de s'exposer beaucoup aux rayons ultraviolets. Mmh. Et il y a une bonne raison à ça, c'est que ce sont des rayons qui sont capables d'altérer, de casser les molécules, d'altérer la matière, parce qu'ils sont assez énergétiques, justement. Et alors, la clé pour savoir si l'étoile est active ou pas, c'est justement de regarder comment elle émet de la lumière dans l'ultraviolet. De regarder un peu sa lumière ultraviolette, est-ce qu'elle est stable. Et ça a un intérêt direct pour la recherche d'eau et puis l'état des atmosphères des planètes qui sont autour de l'étoile, parce que ce rayonnement ultraviolet, il est capable de casser les molécules d'eau.
Ok.
Ce qui fait que, ce qu'on voulait mesurer à la base et qu'on a pu estimer, c'est combien de ce rayonnement ultraviolet arrive sur chacune des planètes. Donc pour ça, on regarde l'étoile avec Hubble et on fait une mesure de la lumière de l'étoile dans l'ultraviolet. Et après, on est capable, en fonction de la distance des planètes par rapport à leur étoile, de savoir combien il y a de radiation qui arrive au sommet de l'atmosphère.
D'accord. Et ensuite, par déduction, donc vous...
Alors, par déduction, donc ce rayonnement, donc s'il y a de l'eau sur les planètes, hein, comme c'est le cas, comme si, alors s'il y avait de l'eau sur Terre, enfin il y a de l'eau sur Terre, donc il y a de l'eau dans les océans, et puis il y a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, puisque l'eau des océans s'évapore, donc il y a toujours de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et puis cette vapeur d'eau, donc en général, elle va se recondenser sous forme de nuages, elle va retomber à la surface. Hein, c'est le cycle de l'eau. Qu'on appelle, plus techniquement, on appelle ça un piège froid. Hein. L'eau se condense parce qu'il fait froid en altitude, elle retombe. D'accord. Mais il y a toujours quelques molécules d'eau qui se diffusent jusqu'en haut de l'atmosphère, au-dessus de la couche d'ozone notamment. Et quand ça arrive, en général, elles se font casser par le rayonnement ultraviolet du soleil. Et quand vous cassez une molécule d'eau, donc l'eau c'est H2O, deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, alors vous récupérez ces deux atomes d'hydrogène d'un côté, l'oxygène de l'autre. L'oxygène est assez lourd, donc en général, il retombe. Par contre, l'hydrogène est plus léger, beaucoup plus léger que l'air. C'est le gaz le plus léger de l'univers. Et donc l'hydrogène, lui, il va s'échapper, il va quitter la Terre. Et donc la Terre, comme ça, elle perd en permanence de l'hydrogène. Et donc, en fait, elle perd de l'eau. Okay. Simplement, elle n'en perd pas beaucoup. Et donc, c'est pas notable pour nous. Mais dans le cas, si le Soleil était beaucoup plus virulent, si le Soleil nous envoyait beaucoup plus de rayonnement énergétique en haut de l'atmosphère, à ce moment-là, on pourrait perdre beaucoup plus d'eau, beaucoup plus d'hydrogène, donc beaucoup plus d'eau. Et c'est ça qu'on veut mesurer sur les planètes autour de TRAPPIST-1. Comme on ne connaît pas l'étoile, donc on la mesure dans l'ultraviolet et on essaie de calculer combien les planètes, combien ça fait perdre d'eau aux planètes, en cassant les molécules d'eau, et en fait, ces planètes, elles vont perdre de l'hydrogène.
D'accord. Et vous avez donc déjà pu tirer des conclusions ?
Alors, oui, donc c'est... Donc les calculs qu'on a faits à partir des observations qu'on a obtenues montrent que si ces planètes se sont formées avec beaucoup d'eau, ce qu'on ne sait pas a priori, mais c'est une possibilité, à ce moment-là, donc elles ont pu en perdre une fraction qui pourrait être, disons, les planètes les plus proches de l'étoile aurait pu perdre jusqu'à 20 fois l'équivalent des océans sur Terre, donc elles sont probablement asséchées, disons, à l'heure actuelle. Donc ça, c'est pour les planètes les plus internes. Par contre, les planètes qui sont le plus loin de l'étoile, y compris quelques-unes, donc deux ou trois qui seraient dans la zone habitable, elles auraient pu garder quand même une fraction d'eau significative. Et donc, ce que ça veut dire, et on ne dit rien de plus, c'est que si les planètes se sont formées avec beaucoup d'eau et qu'elles contenaient d'eau, notamment sur leur surface sous forme d'eau liquide, à ce moment-là, les planètes qui sont à l'extérieur de la zone habitable pourraient encore en abriter aujourd'hui.
Oui, d'accord. Est-ce à dire qu'éventuellement, elles auraient pu, à un moment donné, cette planète dans la zone habitable ou en dehors même, accueillir la vie à un moment donné ?
Alors, ce n'est pas impossible, effectivement, mais pour l'instant, on n'a pas de contraintes dessus. Ouais. Alors, ça peut vous paraître un petit peu frustrant, parce que finalement, je vous dis autre chose de plus que, bon, on n'en sait rien, et on a regardé, et on en sait un peu moins rien. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'en fait, on étudie l'étoile en détail, parce que Donc évidemment, on s'intéresse quand même beaucoup aux planètes, et puis on aimerait bien savoir si vraiment on peut trouver au moins la trace d'une atmosphère sur ces planètes.
Bien sûr.
Pour l'instant, on ne l'a pas.
D'autant plus que c'est quand même un système planétaire qui est relativement voisin, qui n'est pas si loin que ça.
Exactement.
C'est ça. 40 années-lumière, au bout du compte.
Voilà, donc on espère en trouver d'autres, mais celui-là, oui. il est franchement pas mal. Donc, ce serait vraiment bien de réussir à trouver des indices vraiment de l'existence d'une atmosphère sur ces objets. Et en fait, c'est ce qu'on a commencé à faire juste maintenant. En fait, même hier, le télescope spatial Hubble a commencé un grand programme d'observation qu'on a pu obtenir, alors justement, grâce à toutes les observations préparatoires qu'on a fait précédemment et dont il est question là aujourd'hui, dont on parle. Donc maintenant, on va passer un bon moment à observer le système avec Hubble. Et maintenant, plutôt que de se concentrer sur l'étoile, on va se concentrer maintenant sur les passages des planètes devant l'étoile. Donc on va essayer d'observer l'étoile à chaque fois qu'il y a une planète qui passe devant. Et on va faire ça pendant un nombre conséquent de... Alors, quand on observe avec le télescope Hubble...
Oui, j'allais vous poser la question, justement. Est-ce qu'il est en orbite autour de la Terre, Hubble ?
La Terre, exactement. Et donc, on va compter le temps en termes d'orbite d'Hubble autour de la Terre. Ouais. Alors, Hubble met à peu près 100 minutes à faire le tour de la Terre. Mmh. Et donc, on va utiliser une centaine de ces orbites.
Ah oui !
Qu'on va dédier à l'étude des planètes du système TRAPPIST-1. Mmh.
Lorsque le télescope James Webb sera-t-il également en orbite comme Hubble ou est-ce qu'il sera placé différemment ?
Non, il sera placé différemment, il sera beaucoup plus loin de la Terre. Il ne va pas tourner autour de la Terre, il va tourner directement autour du Soleil. En fait, il va se trouver à un point d'équilibre entre la gravité de la Terre et la gravité du Soleil. Et il est envoyé aussi loin parce que justement, comme il observe beaucoup dans l'infrarouge, la Terre elle-même, c'est une source de rayonnement infrarouge qui peut gêner les mesures.
Je comprends.
Et donc, on veut vraiment protéger le télescope de ça. Et donc, il est envoyé au-delà de l'orbite de la Lune.
Dites-moi, est-ce que l'on peut également observer, ou peut-être qu'avec le télescope Webb pourra-t-on, d'éventuels satellites qui tourneraient autour des planètes du système planétaire TRAPPIST ?
Alors, on est activement à la recherche des premières exolunes, c'est vrai, et ce serait vraiment formidable d'en détecter autour des planètes de TRAPPIST. C'est pas impossible qu'on y arrive, maintenant c'est quand même assez difficile parce que donc les planètes sont relativement petites. Donc je dis relativement parce que ça fait quand même ces planètes qui font la taille de la Terre, mais vu qu'elles sont très loin, ça reste petit. Mm-hmm. Et alors, disons un objet comme la Lune qui est encore beaucoup plus petit, là, pour le coup, serait quand même assez difficile à détecter.
Ouais. Il y en a-t-il qui ont déjà été détectés ou pas encore ?
Non, justement là, pour l'instant, on n'a pas encore détecté d'exolune. On a des candidats, mais il n'y a encore rien de confirmé. En fait, c'est assez difficile parce que donc comme on trouve beaucoup de planètes qui sont proches de l'étoile, on pense que proches de l'étoile, les lunes ont du mal à rester stables autour de leur planète.
D'accord.
L'étoile est très proche et ça perturbe probablement leur orbite et soit ça les éjecte, soit ça les fait rentrer en collision avec les planètes. Donc il faut regarder des planètes qui sont plutôt loin de l'étoile. Quand on regarde notre propre système solaire, hein, la Lune, le système Terre-Lune, c'est une exception. Toutes les planètes internes, les petites planètes internes qu'on appelle telluriques, qui sont solides, en fait, il n'y a pas de gros satellites à part la Lune. Par contre, quand on regarde les planètes géantes qui sont beaucoup plus loin, qui sont beaucoup plus grosses, alors là, on a des dizaines et des dizaines.
Oui, c'est ça. Jupiter, on a, et Saturne en ont plusieurs dizaines, c'est ça ?
Ah oui, une soixantaine facilement. Alors, il y en a quelques-unes qui sont très grosses, hein, qui font la taille de... Il y a quelques lunes qui sont plus grosses que Mercure. Donc aussi grosses que des petites planètes, mais après il y en a des myriades de toutes petites, mais voilà, disons il y a des vrais systèmes. Jupiter c'est presque un mini système planétaire.
Mais est-ce que la vie pourrait se nicher dans une des lunes ?
Alors
est-ce
oui,
que ça c'est quelque chose de possible.
Exactement comme vous proposiez tout à l'heure. Donc elles sont froides, donc celles du système solaire sont froides, hein, donc parce qu'elles sont loin du Soleil, donc elles sont recouvertes par des couches de glace. mais on pense qu'il peut y avoir des océans subglaciaires qui, s'ils sont en contact avec de la roche en dessous, donc il pourrait y avoir des puits de vapeur hydrothermale comme on a sur Terre. Et puis, donc sur Terre, on sait que ce sont des environnements qui, contre toute attente, sont assez favorables à l'existence de vie. Alors peut-être pas
pas comme on l'entend. Enfin...
Alors, disons, sur Terre, c'est assez différent. Hein. Les formes de vie qu'il y a autour des fumeurs noires sont assez différentes de ce qu'on a à la surface. Ce qu'on ne sait pas, c'est si la vie a pu vraiment apparaître autour de ces sources hydrothermales ou si elle est apparue ailleurs et qu'elle s'y est adaptée. Mais si elle est apparue autour de ces sources hydrothermales en premier lieu, à ce moment-là, il y a des chances d'avoir ça sur d'autres objets. Par contre, ça va être difficile de détecter ça depuis l'extérieur.
C'est clair, ouais. Par contre, c'est vrai qu'il faut dire quand même qu'on va les citer, hein, puisqu'à Genève, il y a quand même cette tradition de découvreurs, hein, Michel Mayor et Didier Queloz, qui avaient trouvé les premières exoplanètes, si je ne me trompe. Alors peut-être que voilà, ce sera à Genève que se trouveront les premières exolunes, qui sait ?
Alors, ce serait amusant. Alors, juste pour revenir un petit peu à ce qu'on essaye de faire pour Trappist 1, ce qui nous plairait énormément, c'est de réussir à détecter alors les signatures de l'existence d'atmosphère, comme je vous le disais.
Oui, tout à fait.
Et donc pour ça, alors on va utiliser le même type d'observation dans l'ultraviolet. Et ce qu'on va essayer de voir, alors, on ne va pas réussir à voir de l'eau directement. Ça va être trop difficile parce que c'est trop près de la surface, c'est trop petit. Par contre, on va essayer de trouver trace de cet hydrogène qui résulterait de la brisure des molécules d'eau par le rayonnement ultraviolet. Donc l'eau se casse, ça crée de l'hydrogène, l'hydrogène s'échappe. Et cet hydrogène-là, on a déjà vu des exoplanètes avec des panaches d'hydrogène qui s'échappent, donc des plus grosses planètes, hein, pas des planètes de taille terrestre. Et on pense qu'on pourrait parvenir, en observant suffisamment longtemps avec Hubble, et si on a vraiment des atmosphères en train de s'échapper autour de ces planètes, à ce moment-là, on pourrait détecter l'hydrogène. D'accord. Et si on détecte l'hydrogène avec Hubble, parce que l'hydrogène, pour le coup, on peut le voir dans l'ultraviolet, si on arrive à le détecter, alors ça, ce serait un signe assez fort qu'il y a de l'eau dans la basse atmosphère des planètes.
C'est clair.
Donc, ce serait très excitant.
Eh oui. Vous avez déjà un pronostic, disons, j'ai envie de dire deux pronostics. Un qui soit de l'ordre du rationnel et puis un autre qui soit de l'ordre disons, de l'espoir et un peu de l'irrationnel comme ça, vous voyez ce que je veux dire, de l'instinct.
Oui, je vois bien. Alors, je ne vais pas vous surprendre. Hein. Alors, le pronostic rationnel, c'est donc on ne sait pas, on ne peut à l'heure actuelle, on ne peut rien dire.
Okay.
Mais bon, c'est aussi pour ça que c'est excitant.
Oui, bien sûr.
C'est intéressant justement d'observer. C'est parce qu'on n'a pas la réponse à ces questions. Si on avait toutes les réponses, finalement, on ne servirait plus à grand chose. Je parle des astronomes. Donc, d'un point de vue rationnel, la seule chose logique à faire, c'est de continuer à observer, de continuer à obtenir des données et puis de les analyser et en parallèle de faire des simulations numériques pour essayer de comprendre comment fonctionnent les choses et puis comment elles évoluent ou comment elles ont pu évoluer.
Oui.
Et puis alors point de vue donc pour la deuxième partie de votre question d'un point de vue plus irrationnel. C'est sûr que c'est difficile d'imaginer que ce qui s'est produit sur Terre n'a pas pu se produire ailleurs. Et je dirais que quelque part, toute l'histoire de l'astronomie, c'est un peu l'illustration de ça. Hein. C'est-à-dire que quand on a pensé que la Terre était au centre de l'univers, on a vite déchanté. Donc tout nous a poussé à comprendre que la Terre n'est pas une planète exceptionnelle en soi. Maintenant, toujours est-il que ça fait maintenant 20 ans, 25 ans qu'on cherche une planète semblable à la Terre. Alors, on a des limitations techniques, hein, donc on améliore les techniques de plus en plus, et puis c'est ce qu'on, notamment à l'Observatoire de l'Université, ici à Genève, on a une grande tradition de créer des instruments, les instruments les plus précis au monde pour chercher des planètes de plus en plus petites, de plus en plus loin de leur étoile, jusque dans les zones habitables. On vient d'ailleurs de livrer un nouvel instrument au Chili, un super spectrographe qui va commencer à observer cette année. dans l'espoir de trouver des terres, justement, dans les zones habitables. Mmh. Et donc, si on cherche, c'est bien parce qu'on est poussé par quelque chose. Donc, on se dit, voilà, il n'y a pas de raison que la Terre soit exceptionnelle du point de vue de l'existence de la vie. Donc, elle doit exister ailleurs. Si elle existe ailleurs, on a des raisons de penser que ça pourrait être dans les mêmes types de conditions. Et alors, toute la question qu'il y a autour de Trappiste 1, c'est est-ce que les conditions sont vraiment semblables à celles de la Terre ? Et là, je reviens à ma première réponse, c'est-à-dire on ne sait pas, et c'est pour ça qu'on observe, pour savoir si, justement, est-ce que c'est vraiment propice. Mais là, encore une fois, il va nous falloir plus d'observations et puis de la patience pour avoir des réponses.
Très bien. Effectivement, ce qu'il y a de fascinant également, c'est de se dire que peut-être que pour un temps, les choses changent et que ce qu'on observe effectivement avec cette distance ne sont pas les choses qui sont au même moment présentes. Et c'est de se dire que peut-être qu'effectivement, des choses ont pu exister, que l'on va pouvoir peut-être retrouver non seulement des lieux, mais également des temps qui étaient différents et qui ont permis peut-être justement le surgissement de la vie. Enfin, moi, ça me fascine énormément.
Alors, c'est vrai, mais là, en l'occurrence, on parle d'un objet où ce qu'on voit, c'est
oui, oui.
Un instantané de ce qu'il y avait il y a 40 ans. Donc, c'est vraiment rien du tout à l'échelle cosmique. Ouais. C'est sûr que quand on regarde d'autres galaxies ou des objets lointains, là, on peut remonter des millions d'années en arrière en regardant leur lumière. Mais encore une fois, c'est
40 ans, ça reste
possible d'observer des planètes dans aussi loin. Là, on est vraiment quelque part...
Dans une échelle humaine, 40 ans, c'est bien.
Voilà. on est dans une bulle d'une centaine d'années-lumière autour du Soleil. On peut faire de la statistique sur la présence de planètes qui, dans un millier d'années-lumière, on va dire. Mais si on veut vraiment étudier les planètes, il faut qu'elles soient entre une dizaine et une centaine grand maximum d'années-lumière.
D'accord. On va doucement conclure et vous laisser retourner à vos observations parce que là, on vous a pris beaucoup de temps. Mais j'aurais encore une petite question pour conclure, si vous êtes d'accord, si vous êtes toujours disponible. Je me demandais, attendez, hop, je cherche ma petite question que j'avais notée là parce que du coup, depuis qu'on parle, j'ai noté tellement de choses que je ne retrouve plus. Qu'est-ce que c'était ? Attendez, on coupera ça. Oh là là, j'ai fait tout plein de schémas. Non, je ne le trouve plus. Non, c'est pas possible, il était tellement sympa. Les satellites, je vous ai posé la question. L'existence, l'eau, le volume. Oh, c'est pas vrai. Satellites, son habitabilité.
Alors, en attendant, je peux vous dire un truc rigolo.
Oui, alors dites-moi, oui, tout à fait.
Qui était peut-être par rapport à la question sur qu'est-ce que je crois. Dont je suis assez convaincu, c'est que si on doit détecter, si on arrive à détecter un jour la vie sur une exoplanète,
oui.
Ce dont je suis assez persuadé, c'est que cette exoplanète-là, on la connaîtra dans les 20 à 30 prochaines années. Alors, on ne saura pas forcément dire s'il y a de la vie dessus, mais la planète sur laquelle on arrivera en premier à détecter des traces de vie, si jamais ça arrive un jour, celle-là, on la connaîtra assez vraisemblablement dans un futur proche.
D'accord. Donc ça, c'est également une bonne nouvelle.
Pourquoi ? Parce que, justement, comme on cherche des objets qui sont dans un volume finalement assez limité autour du Soleil, en 2000, alors là, on a des satellites qui font des relevés, qui essaient de trouver toutes les planètes dans cette bulle autour du Soleil. En 2026 à peu près, on va avoir une nouvelle mission qui s'appelle Plateau, qui va être lancée par l'Agence spatiale européenne et qui va essayer de détecter le maximum de planètes habitables proches de nous. Donc c'est très vraisemblable que la première planète sur laquelle on arrivera à détecter des traces de vie, si on y arrive, elle sera détectée par ce satellite.
D'accord. Eh bien, écoutez, c'est très bien et ça me fait revenir ma question à l'esprit. C'était justement un petit peu en lien de ce que vous dites là. Donc on observe que les prochaines étapes en 2018, donc l'année prochaine, il y aura effectivement le télescope James Webb qui sera lancé. Avec une batterie de résultats nouveaux, j'imagine. Et puis ensuite, vous l'avez dit, en 2026, ce nouveau satellite d'observation. si on a eu vraiment cette rupture avec tout d'un coup toutes ces exoplanètes que l'on a pu découvrir les unes derrière les autres, avec tous ces espoirs renouvelés, s'il fallait s'attendre à un nouveau bond en avant, comme ça, un surgissement, lequel serait-il selon vous ? Parce qu'on a un avant exoplanète et puis on a ce boom incroyable où toutes ces exoplanètes apparaissent, surgissent et puis ben voilà, ces galaxies, toutes ces possibilités-là finalement avec ces étoiles que l'on va pouvoir observer et ces systèmes planétaires autour. S'il fallait qu'il y ait un nouveau bond dans ces prochaines années, selon vous, quelle forme pourrait-il prendre ce bond ?
Alors, pour si on reste sur la thématique des exoplanètes, c'est vraiment l'étude approfondie des atmosphères de ces objets.
D'accord.
Donc, ce qu'on a, les booms auxquels vous faites référence, c'est des booms en termes de nombre de planètes détectées. Mm-hmm. Alors là, c'est vrai que ça a explosé. On a plusieurs techniques, deux en particulier, qui ont vraiment très, très bien marché et qu'on a réussi à raffiner jusqu'à des niveaux assez, assez phénoménaux pour détecter des planètes. Et puis maintenant, on est vraiment au tout début de l'ère où on arrive à caractériser l'atmosphère de ces planètes. Mais ça reste encore très difficile, et on le fait finalement un petit peu au compte-gouttes sur quelques planètes, et on a des choses convaincantes sur quelques planètes. Alors le gros boom, des 10-20 prochaines années, ça va vraiment être quand on arrivera à accumuler des données sur les atmosphères de centaines et de milliers de planètes, de manière à ce qu'on puisse faire non plus des statistiques sur le nombre de planètes, mais sur le contenu de leur atmosphère, par exemple.
Tout à fait, oui.
Parce que ça va vraiment nous renseigner sur tous les processus physico-chimiques qui se passent dans ces objets, en termes de... Même on peut parler de climatologie, de tout un tas de sciences comme ça qu'on peut appliquer aux objets du système solaire. Hein, on peut faire de la climatologie si on peut prévoir le temps qu'il va faire sur Mars, mais on ne sait pas encore le faire... pour les exoplanètes. Et alors ça, c'est vraiment la prochaine étape.
Très bien. Je vous remercie énormément de toutes ces informations que vous nous avez données. Ça donne envie de devenir astronome. Et on peut dire que s'il y a un métier qui a un avenir assuré, c'est bien celui-là, puisque quoi qu'il en soit, l'univers étant en perpétuelle expansion, eh bien, a priori, des astronomes, on en aura toujours besoin.
Voilà, on peut dire ça comme ça.
Je vous remercie beaucoup, David Ehrenreich. Et puis, nous vous souhaitons un bon courage pour la suite de vos recherches. Et bien entendu, nous nous tiendrons informés. Et justement, c'est le sens de ma dernière question. De quelle manière est-ce que les personnes, le public, les férus d'astronomie peuvent se tenir informés de l'avancée de ces recherches ? Est-ce qu'il y a un site internet ? L'Observatoire de Genève lui-même communique ?
Alors, l'Observatoire de Genève communique tout à fait. L'Observatoire de Genève se visite même. Donc en allant sur le site web de l'Observatoire à l'université, on peut s'inscrire pour des visites de l'Observatoire qui sont données par des chercheurs doctorants. Donc ça, c'est tout à fait possible de venir nous voir.
D'accord.
Et puis, bon, bah, y a de la communication institutionnelle à travers les communiqués de presse qui peuvent sortir plus ou moins régulièrement. Donc il y a aussi pas mal d'informations sur le web. Sur les travaux qui sortent de l'Observatoire.
D'accord. Eh bien, je vous remercie encore beaucoup. Et puis, bonne continuation et bonne suite des opérations.
Merci beaucoup.
Voilà. Voilà, on va arrêter là, si ça vous va, parce qu'on a fait long. Hein. Je ne voulais pas non plus prendre trop de temps, mais là, je ne sais pas combien de temps on a fait, mais on a fait un bout. Ça va pour vous ?
Ça va très bien.
Génial. Et c'était super. Merci beaucoup. Nous, on est par ailleurs fans. On revient de la féerie d'une nuit. Je ne sais pas si vous connaissez vos signaux de bougie.
Ouais, j'ai entendu. Alors, je savais pas qu'il y avait, mais j'ai entendu dire qu'il y avait une nuit astronomique.
C'était fantastique. Et d'ailleurs, il y avait Eric Ashkar, s'appelle-t-il. Vous voyez, il est de la Société d'astronomie de Genève que l'on a pu interviewer là-bas.
Ok, non, je le connais pas. Je connais pas très bien la Société d'astronomie.
D'accord. En tout cas, c'était très 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 intéressant. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai votre mail, donc on fait le montage, on vous envoie tout ça. Et puis, vous nous direz si tout ça vous convient ou pas. Et puis, quand vous nous confirmerez ça, on sera ravis de le publier sur les sites.
Ok.
Génial. Et puis, nous, on va se renseigner parce qu'effectivement, l'Observatoire de Genève, ça fait un moment qu'on voulait aller le visiter. Et puis, même leur proposer, pourquoi pas, d'amener la radio là-bas. Enfin, on verra, on va regarder tout ça.
Ok. Très bien. N'hésitez pas.
Ouais, merci beaucoup. À la prochaine, bon après-midi.
Au revoir.
Au revoir, merci.